Radio 1, premier sur l'info, avec Matelas Royalty et AXA Assurance.
Vous écoutez Radio, il est pile midi. Tout de suite, les titres de votre journal local. Il est présenté aujourd'hui par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Benny et bonjour à tous. Gaston Floss s'exprime sur ses affaires. Il demande notamment la démission d'Edouard Fritsch. Nous retrouverons Charles Irénée en direct dans en début de journal à midi. Le MEDEF interpelle les autorités sur la relance de l'économie. Et puis enfin, un incendie s'est déclaré très tôt ce matin dans la hauteur de Papala. L'incendie a été maîtrisé.
En plein procès, Floss passe à l'offensive.
Ah oui, Gaston Floss, contre qui a été requis un an de prison ferme pour dissimulation de biens à Paris, a tenu une conférence de presse ce matin. Mais plutôt que des affaires, c'était de la crise Covid que le président du Tawera voulait parler. Et comme lors de ses dernières interventions, il demande la démission du président du pays, Edouard Fritsch, et même celle du haut-commissaire Dominique Saurin.
Oui, Wallis, le vieux lion a comme à son habitude distribué les coups au commissaire. Il reproche les décisions tardives de confinement, le manque d'experts envoyés de métropole, le manque de préparation des hôpitaux périphériques. À Edouard Fritsch, il reproche une incompétence généralisée. L'avalanche de morts, selon lui, sous-estimée, c'est sa faute. Le leader orange interroge son ancien poulain. Est-ce que vous aimeriez qu'on stocke votre mère défunte dans un compteur et avoir à creuser sa tombe à la main? Des propos durs, comme la situation. Dit-il, mais le président du Tawera a ses propres contradictions. En juin, il avait dénoncé le discours du ministre Sébastien Lecornu sur la fermeture des frontières et sur l'objectif de 70% de vaccinés. Aujourd'hui, Gaston Floss explique que si lui était président, il aurait justement fermé ses frontières plus tôt et il aurait eu une politique plus ambitieuse sur la vaccination. À côté de cet exercice de politique fiction, c'est bien la politique, la vraie, qui est en jeu. Le vieux lion a perdu de l'influence sur ses propres élus à l'Assemblée et à 2 ans des territoriales, il peut en regagner sans savoir s'il pourra se représenter au Wallis.
Floss a fini par parler de son procès finalement.
Et oui, il a fallu poser la question plusieurs fois, mais il a répondu pour expliquer que cette affaire n'est finalement qu'une affaire parmi d'autres et qu'il s'agit d'une énième tentative de l'État pour le discréditer ou l'empêcher de se présenter. L'audience qui a eu lieu à Paris n'est pourtant pas anecdotique. On lui reproche d'avoir dissimulé près de 200 millions de francs à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, 29 millions de francs de tableaux qui auraient été en fait confiés à sa femme, 27 millions sur un compte épargne retraite, 120 millions de reliquats sur la vente de son hôtel particulier, le Ranelagh à Paris, qui avait été vendu entre 500 et 600 millions. Son avocat à Paris a plaidé des oublis, des maladresses en lien avec son grand âge. Gaston Floss, lui, ne reconnaît pas son grand âge, mais crie à la manipulation et accuse même l'État de vouloir le voler. Vivement la souveraineté, s'écrie l'ancien champion de l'autonomie, qui assure que tout est transparent chez lui. Quant au procès, vous l'avez dit, le procureur a requis un an de prison ferme, 5,4 millions de francs d'amende et aussi 5 ans d'inéligibilité. Pas de quoi impressionner le multicondamné. J'irai en appel ou en cassation, a-t-il déclaré. En 2023, Gaston Floss aura 93 ans, mais compte bien se représenter Wallis.
Coup Charlie pour toutes ces explications.
Et on continue notre information avec le MEDEF qui interpelle les autorités sur la relance de l'économie.
Et oui, le président de l'organisation patronale l'avait déjà dit, ce confinement est un nouveau coup dur pour les entreprises. Sa prolongation n'a pas été une surprise, mais pour Frédéric Doc, il est déjà temps de penser à la suite, car à l'entendre, les entreprises, notamment du tourisme et des services, auront besoin d'aide pour se remettre sur pied. Et les dispositifs qui ont été annoncés par l'État et le pays, principalement des reconductions à un niveau plus faible que l'année passée, ne sont pour le moment pas à la hauteur. Écoutez-le.
Bien sûr que les entreprises sont touchées et les aides qui sont mises en face, aujourd'hui que ce soit par l'État ou par le pays, ne restent que marginales quoi, face au problème. C'est pas anormal qu'on soit pas capable de dégainer immédiatement le bon dispositif. Par contre, il va falloir être très présent sur les conséquences de ce confinement. Il faut que les plans de relance qui ont été annoncés maintenant se déroulent au bon rythme, voire plus rapidement que ce qui était prévu. Donc c'est le redémarrage de l'économie polynésienne qui peut rassurer tout le monde, y compris les banquiers qui ont produit les PGE, et qui pourront éventuellement produire d'autres prêts pour accompagner la reprise de l'activité. Mais pour ça, il faut que les projets redémarrent très vite, quoi.
Concernant l'obligation vaccinale, elle est saluée timidement car le texte met les employeurs dans une position délicate.
Le fait de parler d'économie fait croire que ce sont les entreprises qui ont poussé au maintien de l'activité, en tout cas à ne pas passer directement au confinement. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui est l'inquiétude des politiques, mais aussi la nôtre, il faut être clair là-dessus, c'est surtout les conséquences sociales. C'est-à-dire si on continue à perdre de l'emploi, à perdre des compétences, et bien la machine, et on va dire la vie en général, ne reprendra pas normalement. Donc il est important effectivement d'avoir le bon ajustement pour ne pas casser ce lien social, en tout cas qui est nécessaire aujourd'hui, que représente l'entreprise dans un contexte comme celui de la Polynésie.
Même vigilance de la part du MEDEF sur le pass sanitaire.
Alors, on n'a aucun doute sur l'objet et sur l'intérêt de cibler des professions plus exposées que d'autres, mais effectivement, la mise en œuvre, elle est compliquée pour l'employeur parce qu'elle ne s'applique pas à tout le monde et donc ça sous-entend et des problèmes de discrimination et des problèmes de secret médical et bien sûr derrière de responsabilité éventuellement de l'employeur. Donc, c'est relativement compliqué à mettre en œuvre. J'espère que les gens n'attendront pas les sanctions prévues par le pays pour se mettre en conformité avec la loi, mais je ne peux pas imaginer que ce soit aujourd'hui aux entreprises qui représentent 45 000 salariés d'aller pousser l'ensemble du pays à se vacciner. Quoi.
Un des propos recueillis par Charlie Rény.
Un incendie sur les hauteurs de Papara.
Ah oui, après l'incendie de Punavia le week-end dernier, ce sont les hauteurs de la commune de Papara qui ont été touchées par les flammes. Le feu s'est déclaré environ vers les 3 heures du matin. Une dizaine de pompiers de la commune sont intervenus afin de circonscrire le feu. Écoutez, Essiano Le Gaïc, pompier de la commune de Papara.
Donc là, à 7h30, ils sont partis sur les lieux avec une dizaine de pompiers, hein, volontaires et permanents. C'est carrément haut, comment dire, c'est des dangerosités par rapport au foyer. Hein. Non, heureusement, il y a les hélicoptères qui ont arrêté la progression, quoi. Hein. Les auteurs, ben, d'après les radios, c'est bon, quoi, hein, au niveau de la transmission.
Aucune habitation n'a été menacée, sachez-le, une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie.
Et 4 ans de prison pour des coups de couteau sur sa compagne.
Un homme d'une cinquantaine d'années a été condamné ce matin à 4 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour avoir asséné une dizaine de coups de couteau à sa compagne en avril 2020. À Ferriato, l'arme servait justement à couper du poisson. Il l'a frappé à la tête et au flanc. La victime l'aurait trompé et échangé des messages avec un autre homme. À l'époque des faits, les enfants de la victime ont été témoins de ses blessures et la mère de la victime s'est interposée. Sans l'intervention de sa famille, l'accusée reconnaît qu'elle aurait pu mourir. Maître Solène Rébérol, avocate du prévenu, se montre satisfaite de la décision rendue.
Il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte pour effectivement tentative de meurtre et c'est à l'issue de l'instruction que les faits ont été correctionnalisés et monsieur a été poursuivi pour du chef de violence volontaire avec arme. C'est une peine qui a pris en compte la personnalité de monsieur, les efforts qu'il a présentés, également son positionnement. Il a reconnu depuis le début les faits qui lui étaient reprochés. C'était un coup de folie et aujourd'hui, lorsqu'il a pu reprendre ses esprits, il a reconnu la gravité des faits et il a du mal à se le pardonner à lui-même, mais il tenait à dire pardon à la victime.
Pendant les 16 mois de rétention qu'il a déjà effectué, l'accusé a entrepris un suivi psychologique et repris ses études. La victime, de son côté, avait eu du mal à se séparer de lui. Pris de remords, justement, elle lui avait envoyé des lettres d'amour. Aujourd'hui, ils disent se séparer sereinement d'un accord, justement d'un commun accord. Madame a refait sa vie et a également bénéficié d'un suivi psychologique avec ses enfants. Maître Carilli Amour Lazari rappelle la position de la cour face au comportement de l'accusé.
Monsieur a la personnalité qui est la sienne avec ses propres insécurités. Il a parlé à répétition de la jalousie. Comme le tribunal lui a fait remarquer, la jalousie peut expliquer certaines frustrations, mais elle n'explique pas les violences et surtout les violences d'une extrême gravité, telle celle dont on vient de parler lors de cette audience.